Salut la gang, ici Mike qui vous parle. Avant l'écoute de cet épisode, on aimerait mentionner une correction importante. Au début de l'épisode, on présente notre invitée Catherine Sylvestre comme étant la directrice de la ferme des Quatre Temps, mais en fait, Catherine est plutôt la directrice de la production maraîchère de la ferme des Quatre Temps à Hemmingford. Toutes nos excuses pour cette erreur et bonne écoute. Salut à tous, vous êtes officiellement à l'écoute d'un nouvel épisode de la saison 2 des Idées Radicules. Aujourd'hui, on reçoit donc François Biron, agronome de formation, puis cofondateur et administrateur principal de la ferme Chapeau Melon située à Ange-Gardien dans l'Outaouais.
Yes, on reçoit également Catherine Sylvestre qui est directrice de la ferme des Quatre Temps, mais surtout nouvellement autrice de l'excellent livre « Le maraîchage nordique ».
Yes. En premier lieu, on a invité Catherine parce qu'on voulait jaser de son nouveau livre. Yes. C'est également elle qui nous a proposé de recevoir François Biron, car il cultive à l'année longue depuis déjà quelques années.
Ouais. Puis tu sais, on était content de faire ça aujourd'hui parce que la culture d'hiver, c'est encore un domaine nouveau en agriculture bio. Puis on était excités de recevoir deux agriculteurs aguerris en maraîchage nordique.
Ouais, premièrement, j'étais enthousiaste à l'idée de pouvoir m'entretenir avec ma nouvelle boss, Catherine, puisque je suis officiellement employé à la ferme des Quatre Temps. Alors, on était vraiment content de pouvoir jaser avec ces deux personnes-là qui sont vraiment à l'avant-garde d'un audacieux mouvement qui rend cette entrevue vraiment pertinente.
Ouais. Puis vous allez pouvoir voir là, dans l'épisode, on discute vraiment juste de la genèse un peu du maraîchage nordique, puis des futures possibilités que ce mode de culture-là détient.
Il y a des moments forts aussi que vous risquez d'apprécier. Une pancarte d'élevage et culture qui tombe derrière François Biron. Manquez pas ça.
Manquez pas ça, c'est très intéressant. Ceux qui sont à l'écoute, vous n'allez pas l'entendre, mais pour la vidéo, vous allez voir. Nous, on a trouvé ça assez cocasse de voir ça en enregistrement.
Sinon, on remercie notre commanditaire principal pour cet épisode, Maximus, oui. Qui font des contrôleurs pour les serres automatisés. Oui. Donc, technologie vraiment à la fine pointe là, qui nous permet...
Ben oui, de pouvoir contrôler l'humidité, la température. Il y a aussi toute la relation avec le contrôleur climatique pour l'accumulation de données, mm-hmm. puis rester à être optimisé. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, je trouve, avec Maximus, c'est que ça peut autant s'adresser à de l'élevage en tant que tel que pour le maraîchage.
Ouais, puis ça récolte des données en temps réel. Fait que c'est vraiment cool pour arriver à la fin de l'année puis avoir de quoi à analyser pour l'année suivante. Fait que yes. Merci beaucoup, Maximus.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maximus. Puis à vous, les auditeurs, je pense que vous allez vous faire beaucoup de fun à écouter l'épisode. Bonne écoute.
Bonne écoute.
Aujourd'hui, on fait un épisode sur la culture d'hiver. On est présentement avec François Biron et Catherine Sylvestre. Comment ça va?
Très bien.
Yes.
Ça va bien, vous?
Ça va super,
oui,
merci.
Bien. Je pense que pour le bien du podcast, on peut. Est-ce que ça vous dérange si on se tutoie? On va faire ça, la version non radio-canadienne. On va se tutoyer ensemble, puis c'est correct?
J'ai 41 ans.
OK, bon.
Tu mérites pas le vouvoiement. Désolé.
Ben non, c'est loin. Bon, good. Ben, j'aimerais ça, moi-même, moi puis Mike, je pense qu'on va, on aime ça un peu commencer avec cette formule-là. C'est vraiment de savoir un peu c'est quoi les grandes lignes de votre parcours. Ça a été quoi les éléments clés qui vous ont apporté où ce que vous êtes aujourd'hui, là, t'sais, sans rentrer nécessairement dans la genèse, je suis né à tel moment, mais juste vraiment comme ça a été quoi les sparks qui vous ont amené où ce que vous êtes.
C'est moi qui commence. OK. moi, c'est les voyages. Donc, j'ai travaillé énormément sur des entreprises agricoles en voyage, ce qui m'a donné le goût de continuer à étudier là-dedans par la suite. Et puis, j'ai été engagé au ministère de l'Agriculture. Et puis, la plateforme agricole m'a permis de démarrer mon entreprise sans avoir une terre à moi. Et donc, ce qui m'a permis de bâtir là, mon entreprise puis de convaincre un banquier de prêter des sous pour m'acheter la terre. Donc, voilà.
Nice.
Merci.
Moi, c'est un peu différent. J'ai commencé par faire des études à l'université dans un autre domaine complètement, qui est l'agriculture. Puis c'est à l'université que là, j'ai commencé à travailler en agriculture urbaine. Mmh. Puis ça comme mon intérêt a commencé là. Puis c'est à partir de là, j'ai commencé à faire du woofing. Puis j'ai travaillé sur une première ferme après la fin de mes études. Puis c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler en agriculture à temps plein jusqu'à maintenant, jusqu'à faire ça de ma vie. Là. Puis d'être, je suis aussi retournée à l'école en agronomie après avoir travaillé sur des fermes. Ouais.
OK. Cool.
Nice. Wow. Félicitations, parce que tu es maintenant agronome depuis peu, c'est ça? Oui. C'est nouveau?
Ouais. Maintenant officiel.
Ouais, maintenant officiel.
Ouais.
Félicitations.
T'as passé ton test.
Fait que là, vous, les deux, ça veut dire que vous connaissez la poignée secrète des agronomes quand tu te rencontres entre eux.
Exactement. C'est surtout en l'air, ton sport préféré.
Mais sinon, je trouve ça quand même intéressant. Je pense que c'est de quoi qu'on entend souvent dans un parcours, le voyage de un qui fait partie souvent d'un processus. Non seulement ça, mais aussi l'agriculture urbaine, qui est souvent une porte d'entrée vers ce monde-là de l'agriculture. Mm-hmm. C'est cool.
Oui, ouais. Je sais pas, Catherine, mais moi, j'étais un néo, là, dans le fond. Moi, mes parents sont pas issus du milieu agricole.
OK, donc, bon, tu vois. Ouais.
Ouais, moi aussi, pas du tout.
Bon.
Zéro.
Ah,
non, on est tous des néos.
Yes. Yes. Donc, je pense que pour commencer, c'est sûr, on va l'aborder. Écoute, Catherine, on te reçoit aujourd'hui, entre autres, pour le premier livre que tu as sorti à date dans ta carrière. Comment on se sent là, comme autrice sur le point de révolutionner le monde agricole? Rien moins.
Je pense pas que c'est ça qui est exactement, mais on sent bien. Tu sais, je pense que le livre, je pense pas qu'il va révolutionner l'agriculture. Ben peut-être, on espère, mais l'idée, c'était plus de compiler ce qui se passait déjà et qui était déjà en train de révolutionner l'agriculture. Ouais. Tu sais, je pense pas que c'est le livre qui a tout changé. Tu sais, c'est plus un témoin d'un mouvement qui existait déjà sans nous. Là.
Ouais.
Ouais.
Non, c'est super cool. Puis, c'est ça. C'est quoi un peu la genèse de ce livre-là? C'est parti comment l'idée? Ça s'est fait dans quelle période de temps aussi?
Le livre, il s'inscrit comme une continuité de tests qui se font à la ferme des 4 ans depuis plusieurs années, en fait, depuis le début de la ferme. Puis ça a commencé vraiment petit. Tu sais, c'était juste des petits tests l'hiver, voir si on était capable de faire des légumes en hiver puis continuer notre saison. C'était très modeste, mais d'année en année, on augmentait nos tests, on voyait qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Puis là, on est arrivé à un moment où on s'est rendu compte qu'on avait quand même développé un ensemble de techniques qui faisaient en sorte qu'on avait plein de belles réussites. Puis on avait envie de compiler ça puis de le partager pour que les gens puissent profiter de toutes les expériences qu'on a faites sans nécessairement devoir commencer à zéro comme nous, on a commencé. Puis ça permet d'éviter plein d'erreurs quand même coûteuses. Là, puis on s'entend qu'il y en a eu pas mal, là, des vaves gelées puis des légumes gelées puis tout ça. Là, François, il pourrait vous le dire.
On le voit au chien de la tête.
J'ai mis du bonnet.
Oui, exactement. Donc, je pense que c'est ça. C'était ça l'idée, c'était de vraiment mettre ça sur papier. Puis c'est peut-être quelque chose que d'autres personnes ne voulaient pas faire, mais nous, on était prêts à comme partager puis donner tout notre savoir parce que c'est un peu l'objectif de la ferme des 4 ans, c'est aussi ça, c'est de développer des techniques puis les rendre disponibles à tout le monde qui veut les reprendre.
Démocratiser, c'est ça, ces connaissances-là. Là.
Exactement. Tu sais, sortir un peu du secret, tu sais, de vraiment comme juste tout donner puis espérer que les gens l'utilisent puis qu'il y ait de plus en plus de fermes qui font l'agriculture en hiver, c'est vraiment ça l'objectif.
Puis je trouve ça cool parce que d'autant plus, comme tu le dis, ça réduit la courbe d'apprentissage. Mais tu sais, je pense que notamment aussi d'avoir quand même, tu sais, comme tu l'as dit, il y a quand même eu un avant de la culture d'hiver d'avant qui se faisait. François, tu peux en témoigner. Mais d'avoir quand même une certaine, tu sais, de poser une information qui a une cohérence aussi. Parce que des fois, on en a parlé même dans un autre épisode de formation en agriculture avec Danny Bouchard puis Pierre-Antoine Gilbert. Mais des fois, de trouver des informations éparses à gauche, à droite, ça peut autant nuire qu'aider dans le sens où s'il n'y a pas de cohérence, s'il n'y a pas une continuité dans l'information qui est transmise et qui est acquise, ben, ça peut mener aussi à des bévues, à des erreurs. Tu sais.
Oui, c'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que c'était une de nos intentions avec le livre, c'était de dire il va y avoir un livre, tout le monde va y avoir accès. Puis là, après ça, on va pouvoir partir de ce livre-là puis dire ça marche, ça marche pas, mais au moins, il y a comme une base commune sur laquelle on peut comme discuter. Pis c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore, je trouve, au Québec. Justement, c'est comme plus un peu... Chacun fait ses choses de son côté, on en parle. Ouais. On a, tu sais, notre RJME, notre réseau, où est-ce qu'il y a des choses qui se parlent, mais il n'y avait pas de compilation de comme A à Z, qu'est-ce qu'on fait?
Ouais. C'est ça.
Fait que là, ça, je pense que ça va être quand même intéressant.
Puis tu sais, justement, dans ce sens-là, puis François aussi, j'aimerais ça savoir, comme, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Juste comme... Tu sais, justement, tu l'as dit, il y avait plusieurs, tu sais, il y en avait déjà qui le faisaient de leur côté avant. J'ai l'impression, à tort ou à raison, que c'est un peu aussi ça avec le jardinier maraîcher, tu sais, le livre du jardinier maraîcher, où ce que plein d'agriculteurs bio le faisaient déjà du bio, pratiquaient déjà une formule paysanne qui était proche quand même peut-être du bio intensif, puis que ça a été comme un travail de colliger tout ça, puis de le mettre dans une formule que, regardez, c'est faisable, on peut partir de là, puis après ça, moduler selon nos besoins, nos objectifs. tu sais, il y a eu vraiment un avant-après quand même, le jardin maraîcher. Puis c'était dans cette lignée-là aussi, tantôt, je lançais à la blague, autrice révolutionnaire qui va révolutionner le monde agricole, mais c'était un peu juste dans le sens que je me demandais justement si, selon vous, ça va quand même avoir un impact comme le avant-après du jardin maraîcher, mais le avant-après du maraîchage nordique qui va servir de point de repère pour certains qui veulent se lancer dans le maraîchage nordique.
Oui, ben, je pense que ben oui, ça regroupe beaucoup d'informations puis ça peut éviter des erreurs coûteuses, là, comme Catherine le disait. Donc, absolument. Là, donc, ça peut en inspirer plusieurs aussi. Là.
Ouais. As-tu l'impression quand même que tu viennes de mettre une marque sur qu'est-ce qui s'en vient dans le domaine?
Oui, ben je pense que il y avait déjà beaucoup d'agriculteurs et agricultrices qui faisaient de la culture en hiver, mais là, je pense que ça va vraiment ouvrir la porte à ce que ça devienne plus la norme en agriculture au Québec, de dire que non seulement on a une petite ferme maraîchère qui fait des légumes en hiver, en été, pardon, mais la nouvelle norme, je pense, ça va être on continue pendant l'hiver aussi. Mm-hmm. Puis l'idée qu'on avait, c'était de dire que on fait plus seulement des légumes, tu sais, ou des paniers, par exemple, pendant l'été, mais qu'on va continuer à les offrir pendant l'hiver.
Ouais.
Puis les gens vont s'abonner à la ferme comme étant quelque chose à chaque semaine qui n'arrête jamais, tu sais, qui est vraiment une continuité dans leur vie.
Ouais.
Puis cette relation-là va être comme à l'année maintenant, c'est avec clair. Les maraîchers et maraîchères. Ouais. Mmh.
Ça, c'est vraiment trippant, puis on va y revenir un peu plus tard, c'est certain. Ce qu'on aimerait mettre sur table tout de suite, c'est quoi les grands principes, dans le fond, du maraîchage d'hiver? T'sais, c'est quoi qui fait un peu la différence entre du maraîchage d'été et le maraîchage d'hiver?
Comment vous le définissez, vous, en tant que tel?
Ben, par rapport à l'intensité des pratiques, donc comme durant l'hiver, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc il faut s'adapter au rythme de croissance des plantes qui est beaucoup plus lent. Je pense que c'est ça la principale limitation. Ensuite, c'est sûr que la température puis l'humidité dans les serres qui vient jouer un rôle assez important, surtout au niveau phytosanitaire, au niveau des maladies des plantes. Ouais. Sinon, Catherine...
Oui, c'est ça, la température, il faut s'adapter. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir comme des structures par-dessus nos cultures parce que sinon, ça ne fonctionnera pas au Québec, il fait trop froid.
Ouais.
Fait que c'est sûr que c'est un des aspects. Mm. Puis après ça, on peut dire aussi, comme au niveau des maladies, il y a quand même des différences avec l'été. Mm-hmm. Le rythme à laquelle ça se répand, mais peut-être que, François a une expérience différente de moi, mais le rythme peut être au ralenti, tu sais, aussi avec les ravageurs, les insectes sont quand même comme moins présents qu'en été. Fait qu'il y a quand même des différences importantes. Là.
Puis justement, par contre, ça doit être. Puis toi aussi, maintenant, Catherine, qui est agronome, ça pose quand même des défis au niveau agronomique intéressants, tu sais, parce que là, vous pouvez comme jouer avec des paramètres. Puis est-ce que ça a été ça aussi un peu?
Je trouve que par rapport à l'été, dans le contexte de serre froide, là, ou plus ou moins chauffée, donc on a peut-être un petit peu moins de latitude, justement, là, par rapport aux revenus qu'on peut tirer par mètre carré dans la serre l'hiver versus l'été, avec des cultures comme des tomates et concombres, par exemple. Donc, faut toujours un petit peu garder ça en tête. Et ce qu'on fait, c'est pas du 100 mètres carrés, c'est du 30-40 $ par mètre carré. Mmh. 100 $ par mètre carré, c'est ça que je voulais dire. Mmh. Et puis, donc, faut toujours garder ça en tête. Donc, oui, c'est possible d'y aller avec beaucoup de input dans nos serres pour pouvoir des cultures qui poussent durant l'hiver. Mais il ne faut jamais oublier l'aspect financier à ça. Là. Donc, ça, c'est bien important. Puis, je voudrais aussi refaire du pouce un petit peu sur les défis. Là. Moi, je trouve le déneiger les serres durant l'hiver. Donc, on est en contexte de faible luminosité. Si en plus il y a des bancs de neige de 2 mètres de haut par-dessus la serre, ben là, au niveau de la lumière, là, ça, il n'y a aucune pénétration, pratiquement pas. Après ça, durant l'été, on est toujours à la course pour essayer de refroidir nos cultures. Durant l'hiver, on est toujours à la course pour essayer de pas que ça gèle. Fait que je trouve le transport des légumes, des feuillages, des serres, dépendamment comment la ferme est construite. Là. Donc le transport des légumes de la serre vers l'entrepôt, ça peut poser un défi. L'accès aussi, il faut déneiger. Le chemin, il faut déneiger les serres, etc. Donc, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'avantages aussi, notamment au niveau du goût. Là.
Ça, on pourrait en parler. En fait, j'aimerais ça. Est-ce que vous voulez en parler tout de suite au niveau du goût des légumes? Qu'est-ce que ça change?
Mais Catherine, elle l'explique super bien. Dans son livre, là. L'antigel, le sucre et l'antigel. Là.
C'est ça. Ben, les légumes en hiver sont plus sucrés. Puis c'est parce que les légumes... C'est simplement, là, les légumes, ils ont un mécanisme de défense qui existe comme sans notre apport, là, qui est naturel. Puis ça, c'est qu'ils vont concentrer le sucre dans leurs cellules pour que leurs cellules, ils gèlent à une température plus froide que leurs cellules, mettons, régulières d'été. Là.
Ouais.
Puis nous, on profite de ça. À la fois, on peut l'encourager. On peut encourager les plantes à concentrer plus le sucre dans leurs cellules.
Ouais.
Mais aussi, en les mangeant, c'est vraiment meilleur. Fait qu'on en profite comme double.
Ouais, c'est ça. Il y a un double avantage. Ben oui. Puis je me demandais justement... comment ça a été quoi le travail? Comment vous avez justement colligé toutes ces données-là? Autant toi, François, avec ta ferme Chapeau Melon, tu sais, ça a été. Est-ce que dès l'année 1, vous avez commencé à essayer de colliger des informations, des données pour faire de la production en hiver?
Absolument, absolument. Ouais. Nous, c'est au centre là, de notre entreprise, là, l'information, donc le data. Là. Donc, on a mis en place un registre dans lequel on inscrit tout ce qu'on fait ainsi que le temps qu'on prend pour faire ces choses-là.
Ouais.
Et donc, après ça, c'est facile pour nous de déterminer la rentabilité de chacune des cultures-là, puis ça vaut la peine ou pas de continuer dans cette voie-là.
Ouais.
Donc, tu sais, pour notre part, nous, on avait déjà des serres qu'on utilisait pour faire des transplants, puis on trouvait ça un peu ridicule d'utiliser nos serres uniquement 2 mois par année quand c'est des cultures qui coûtent, c'est des structures qui coûtent extrêmement cher.
Mmh.
Donc il faut vous les rentabiliser, puis il faut les utiliser à leur maximum. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à tester les cultures d'hiver,
ouais.
Puis ben toujours en prenant les notes là, de tout ce qu'on fait.
Ouais.
Puis quand tu as commencé, toi, c'est sûr, il y avait la charge de travail, si on veut, de prendre des notes et tout, mais t'avais-tu déjà une source d'information d'un autre producteur ou quelqu'un qui avait déjà un peu d'informations recueillies ou...
Ben, avec mon cours là, d'agriculture aussi, de physiologie végétale, j'étais comme un peu au courant des mécanismes de défense des plantes durant l'hiver, etc. Bon, les plantes tropicales, les plantes qui sont capables de tolérer un petit peu plus le froid, fait que c'est sûr que ça l'a orienté mes études, là, de ce que j'ai appris durant mon parcours à l'école, ça m'a aidé à faire des choix éclairés dès le départ par rapport au choix des cultures.
Ouais.
Puis après ça, ben, ça a été justement l'expérimentation. Puis avec les produits comme les bâches flottantes, etc., les souffleries, les serres. Donc là, on a pu commencer à jouer avec ça, puis faire se bâtir une base de données relativement fiable par rapport aux dates de semis, par rapport au stade de récolte, par rapport à toutes sortes d'informations. Donc c'est plus comme ça, nous, qu'on a commencé là, à expérimenter, mais on avait le registre en place. Puis ça, c'est primordial.
Ouais.
C'est,
ouais. Puis tu sais, j'imagine qu'en plus, en étant agronome, ben, non seulement, comme tu le dis, tu as une compréhension assez poussée justement des besoins des plantes été comme hiver, mais notamment, je pense que tu avais aussi l'expérience pour prendre, puis c'est la même chose aussi avec toi, Catherine, j'imagine, pour prendre des données qui sont pertinentes aussi, qui valident, qui nous orientent vraiment dans la bonne direction. J'ai l'impression que j'aimerais ça, en fait, aussi peut-être vous entendre sur c'est quoi que vous regardiez justement au début, quand, mettons, vous regardez, bon, est-ce que cette culture-là peut être rentable l'hiver, oui, non? T'sais, ça serait quoi un peu les critères?
Il y a plein de choses, là. Une des choses principales qu'on regardait, c'est, mettons, le temps de repousse entre une première coupe, mettons, sur des exemples à roquettes.
Ouais.
Le temps de repousse entre sa première coupe et sa deuxième coupe. Fait que là, tu vois un peu qu'est-ce qui fonctionne bien ou pas en hiver. Tu sais, par exemple, la roquette, elle repousse vraiment rapidement, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière.
Okay.
Fait que ça, c'est des données vraiment intéressantes pour savoir est-ce que c'est rentable, combien de rendement on peut obtenir sur cette culture-là. Fait que ça pourrait être un exemple des choses qu'on prend en note.
Ouais.
Après ça, tu sais, est-ce que la culture est morte à une certaine température. Fait que là, ça nous dit, ah, ben peut-être que c'est peut-être pas la meilleure culture à faire au Québec parce que s'il fait, par exemple, je sais pas, moins 15 dans la serre, elle va geler.
Ouais.
Fait que là, peut-être qu'on va laisser faire cette culture-là. Fait que c'est le genre de données qu'on peut prendre en note, là. Mais c'est sûr, tu sais, les rendements, faut les prendre. Les dates de semis avec la première date de récolte, faut les prendre. Puis un de nos plus gros défis, je serais curieuse de savoir, François, comment tu l'as vécu, mais un de nos plus gros défis, nous, c'est de savoir quand planter les choses pour que ça soit rentable. T'sais, je réalise, il y a plein d'exemples à donner, mais t'sais, mettons, je pourrais donner un exemple. J'ai planté de la salade, genre le 20 octobre cette année, puis elle a juste pas poussé. Fait que tu sais, il y a comme... Puis des fois, je l'ai planté 10 jours avant dans mon autre serre, puis là, elle est magnifique. Fait que c'est comme vraiment difficile de trouver les bonnes dates pour que ça fonctionne bien.
Ouais, parce qu'on est dans un contexte de luminosité qui décroît, contrairement au printemps où la luminosité augmente. Fait que chaque fois que tu retardes ta transplantation ou ton semis d'une journée, ça te coûte très cher là, en termes de date de récolte là, plus tard. Fait que définitivement, mais tu sais, pour faire quelque chose de simple, dans le fond, il y a deux facteurs principaux de rentabilité d'une entreprise maraîchère, là, c'est les rendements et le coût de la main-d'œuvre. Fait que essentiellement, c'est ces deux affaires-là qu'il faut que tu regardes. Puis si tu réussis à avoir des rendements suffisants avec un coup de main-d'œuvre okay. réaliste, ça passe. Ça passe. Puis après ça, le reste, bon, ben, tu sais, là, les dates de semis, etc., pour dans ma tête, c'est pas secondaire, mais ça vient après.
T'sais. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Puis justement, je sais pas, ça, j'aimerais ça aussi vous entendre parler. Est-ce que, tu sais, là, tu parlais, mettons, ma salade qui, là, il y a un semis que j'avais fait une semaine plus tôt, il a super bien marché. 10 jours plus tard, là, il marche, tu sais, ça marchait plus. Ça a été quoi aussi? Est-ce qu'il y a eu une recherche quand même aussi, mettons, de variétés plus rustiques? Est-ce que vous avez fait des tests à ce niveau-là aussi?
Moi, oui, quand même. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout le temps choisir les cultivars qui sont les plus résistants au froid. Mm-hmm. Fait que ça a été surtout ça. Puis après ça, on en essaye différents chaque année, puis on voit quels qui fonctionnent le mieux. Fait que c'est plus comme ça qu'on a fonctionné. Mais c'est sûr qu'il n'y avait pas tant de données là-dessus jusqu'à maintenant. Fait que tu sais, je pense qu'il y a encore beaucoup de place là, pour faire des tests. Là. C'est quelque chose qui n'est pas tant développé. Tu sais, nous, on en propose dans le livre, mais ça pourrait être d'autres choses aussi. Je suis sûr que François en fait d'autres.
Bien, les semenciers sont quand même assez bons pour qu'ils connaissent bien leur variété. Puis, ils les testent eux aussi hein, dans les serres durant l'hiver, puis tout le kit. Puis, moi, je me suis beaucoup basé sur leur expérience quand il venait le temps de choisir des variétés. Donc, plutôt que me taper l'essai, ouais, c'est ça, moi-même, ben, tu peux aller directement à la limite, c'est à l'améliorateur génétique, là. Puis tu peux comme, piquer une jasette avec lui. Là, c'est un peu niaiseux, mais tu sais, le cours en agronomie, il permet de parler le même langage que ces gens-là. Fait que là, quand lui comprend que toi, tu comprends puis tu parles le même langage, ah, là, il y a une communication entre les deux. Puis là, il y a beaucoup d'informations qui se transmettent. Là. Ça, c'est fun. Ouais. Ouais, c'est
attends, mais là, tu as appelé des semenciers?
Ben oui.
C'est vrai?
Qui t'a
appelé? Ben, Johnny Zymoing. Je veux dire, oui.
Ah, il y a François from Québec.
Ben écoute, j'ai appelé au Pérou parce que... pour le gingembre, tu sais, parce que je voulais de la semence. J'ai trouvé quelqu'un qui parlait espagnol. Hey, moi, c'est ça. Mais j'ai pris des cours d'espagnol, par exemple.
T'as fait ton enquête?
Ben, certain. Dans le fond, tu sais, faut pas avoir peur. Tu sais, la pire affaire qui peut t'arriver, c'est qu'il te raccroche au nez.
Ouais, t'as tellement raison.
Fait,
tu
sais,
c'est un peu rare.
Ben non, c'est ça, exactement. C'est ça. Okay. Fait que c'est plus mon approche.
Puis face à ça, y a-tu des semenciers qui se démarquent un peu?
Ben, Johnny's, quand même pas mal. Ouais. Ils sont au Maine, fait que tu sais, c'est quand même pas si pire. Tu sais. Puis les deux semenciers, ben, en fond, puis Haimo Inc. qui produit que du bio. Là.
C'est ça, ouais,
fait
c'est
que tu sais, une bonne relation avec son représentant. S'il est allumé le moindrement, ben tu sais, lui, il connaît à l'interne à qui il faut que tu poses la question. T'as des techniciens en champ là-bas qui font les essais, justement, puis tu sais, eux autres, qui ont trollé de données, puis eux autres sont dans la variété, tu sais.
Ouais,
Nous, moi, c'est ça, je vais aller prendre leur information puis je vais essayer comme ce que me recommande, me réfère plus.
T'as-tu vu à travers les années, justement, une offre grandissante de ces cultivars-là qui sont plus... adaptés ou...
Oui, c'est définitivement, tu sais, puis le livre de Catherine là, contribue beaucoup à ça. Fait que c'est sûr qu'il y a un engouement, là, puis il y a eu Elliott Coleman avant, tu sais, puis il y en a eu une couple, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme elle dit, c'est pas nouveau, mais tu sais, ça prenait comme un livre pour le regrouper, c'est toute ça, l'information.
Centraliser,
absolument, tout à fait.
Moi, j'aimerais ça aussi savoir, là, c'était le fun, on geekait un peu plus en voir au niveau des variétés, mais vraiment, retourner un peu à la base, c'est quoi les bénéfices aussi du maraîchage nordique, autant pour le producteur, le maraîcher ou la maraîchère en tant que tel, qu'au niveau du consommateur. Tu sais, tantôt, Catherine, tu parlais, oui, évidemment, de fidéliser la clientèle, d'avoir cette relation-là où que il y a un approvisionnement continu, mais à part ça, ça serait quoi, selon vous, les principaux avantages, vous, pourquoi vous le faites, puis ça vous intéresse?
Ben, c'est ça. Donc, c'est sûr que nous, on a un modèle d'affaires qui n'est pas très diversifié. Donc, on a quelques légumes de champ puis quelques légumes en serre. Puis donc, quand on a démarré l'entreprise en 2012, il fallait trouver notre place sur ce marché-là. Et donc, règle générale, tous les commerçants ont déjà leurs fournisseurs. Donc, il fallait trouver un moyen d'entrer sur le marché. Donc, on ne peut pas inventer de légumes. Je peux pas arriver avec un légume que personne connaît, que je suis seul à faire. La seule chose que je pouvais faire de différent, c'est d'avoir des légumes quand les autres en ont pas, d'où les serres hivernales. Et donc, à ce moment-là, j'entre en compétition pratiquement avec personne au Québec, mais j'entre en compétition avec la Californie et l'Ontario. Puis, règle générale, l'hiver, les prix sont relativement bons. Fait que ça tient la route là, sur papier, ce modèle-là. Donc, c'est là-dessus qu'on a décidé de miser. Puis, à notre grande surprise... on a fait des petits tests, là, bon, dans une salle, tu sais, sur, je sais pas moi, 10 mètres carrés. Puis là, on est allé chercher un prêt pour bâtir une nouvelle salle, pour faire juste ça. Puis on a eu les mêmes chiffres qu'on a eu sur 10 mètres carrés que sur 500 mètres carrés. Fait que là, on dit, bon, ben ça marche. Fait que là, depuis ce temps-là, on fait juste comme...
Wow, ouais.
Multiplier. Puis ça répond toujours. Ben là, j'ai hâte de voir, là, mais.
Ouais.
Ben c'est parce que les prix des légumes présentement est vraiment poche, là.
Ça joue-tu à notre avantage ou ça joue-tu un inconvénient pour nous autres?
De quoi? Pour le prix des légumes?
Ouais, le prix des légumes qui augmente sur le marché international et tout.
Ben là, présentement, c'est ça. Ce qui est curieusement, c'est que, tu sais, mettons, si je prends les patates douces, là, les patates douces importées sont plus chères que les patates douces du Québec présentement.
C'est ça. Ben, à cause de tous les canaux de distribution, probablement, on voit qu'il y a une augmentation aussi du prix des denrées importées, tu sais.
Oui, effectivement. Puis je pense que 2021 a été une excellente année de production, là, en général, pour tous les légumes. Mmh. Mais en tout cas, le prix au producteur est bas, puis le prix du panier d'épicerie est haut. Ah, fait bon, que ça. Là, il y a quelqu'un entre les deux qui fait la part. Mais ouais. c'est pour faire une. C'est ça, c'était une longue histoire, mais essentiellement, c'est pour ça que j'ai choisi. Ben, qu'on a continué à développer ce créneau-là.
Ouais, c'est très bien, c'est cool.
Question de marché.
Ouais, c'est ça.
Nice.
Bon, nous, on a une réalité un peu différente de François, parce qu'on fait moins du semi-gros, on fait juste de la vente directe.
Mm-hmm. Ouais.
Puis en ce moment, pour nous, les prix sont vraiment bons. Je sais pas pour toi, là, mais nous, on vend surtout en ce moment au restaurant. Puis ça fonctionne vraiment bien parce qu'il n'y a pas grand monde autour de nous qui font des légumes en hiver. Puis eux, ils ont comme... C'est beaucoup des restaurants qui sont sensibilisés à acheter local. Puis ils veulent le faire à l'année. Maintenant, ils veulent plus juste le faire l'été. Fait que là, on est dans les seuls qui leur vendent. Fait qu'on n'a pas de problème à vendre tous nos légumes. Là, on pourrait avoir comme trois fois notre production, puis on serait capable de tout vendre.
Wow. Très cool. Puis pour revenir à la question d'avant, justement, pour vous, c'est quoi en même temps les bénéfices du maraîchage nordique en tant que tel? Qu'est-ce que ça vous rapporte? Ouais.
Je dirais que c'est à plusieurs niveaux. T'sais, on pourrait juste aller regarder du côté comme des employés. C'est vraiment le fun de dire qu'ils peuvent travailler à l'année.
Ben oui.
Donc, ils sont plus mis à la porte sur le chômage pendant l'hiver. Donc, ils peuvent continuer à travailler. Donc, ça, déjà, c'est un avantage. Nous, c'est pas le cas parce qu'on fait pas de la rétention d'employés, mais pour des gens qui veulent, par exemple, garder la même équipe d'année en année, ça peut être quand même intéressant.
Mm-hmm.
Après ça, tu sais, il y a le sentiment aussi de dire on crée un nouveau... pas un nouveau code, mais c'est un nouveau modèle qui permet de dire qu'on va avoir des légumes à l'année au Québec, puis que ce code-là, en plus, il est écologique, il n'est pas demandant en termes d'énergie, puis il respecte notre climat nordique. Puis ça, c'est un des trucs qui est vraiment le fun, c'est de dire en hiver, oui, on pourrait chauffer des serres puis mettre des lumières artificielles pour faire des tomates, mais c'est encore plus le fun de dire on va profiter du fait qu'il fait froid, puis on va cultiver des légumes qui aiment le froid, puis on va vraiment comme expérimenter tout ce que ça veut dire d'être dans un pays nordique. Puis je trouve qu'on le fait pas souvent au Québec. On est souvent dans l'idée de « Ah, on n'aime pas l'hiver. Ah, on aimerait que ça soit l'été, à l'année. On s'en va dans le sud en hiver. » Mais là, c'est comme un peu comme basculer ça.
Vraiment.
Puis d'apprendre à aimer notre climat. Puis je pense que ça, c'est... Le maraîchage nordique, ça va être un des trucs qui va nous aider à aller vers ça. Je pense que c'est quand même cool.
Moi, je suis vendu, puis ça me parle tellement aussi là, de rembrasser notre climat. Je sais que Mike aussi, lui, ça écoute, c'est quelque chose qui le passionne, puis même il m'en parle aussi souvent, de vraiment rembrasser notre environnement, de le comprendre aussi, de le réaborder, de le réapprivoiser. Puis tu sais, Mike, en ce moment, il peut en témoigner, il est à Charlevoix, je veux dire, dans des paysages nordiques complètement formidables, puis il profite de cette nordicité-là, autant tu sais au niveau des activités, mais que éventuellement aussi d'avoir des aliments qui supportent ça, qui supportent cette mentalité-là. C'est formidable.
Ouais. C'est trippant parce que pendant longtemps, c'est ça, quand on parle de souveraineté alimentaire ou d'autonomie alimentaire, on voit toujours ça comme un frein. Puis là, ben, on est en train de réaliser le potentiel, puis c'est plus seulement un frein, mais c'est ça, c'est un potentiel unique, tu sais, de pouvoir offrir un produit que Californie ne vont jamais pouvoir apporter sur nos tablettes.
T'sais. C'est ça, ça devient quasiment une marque même culturelle là, en tant que telle, tu sais, de dire, ben, ça, c'est qu'est-ce qu'on produit, qu'on est capable de produire ici en hiver, puis c'est singulier.
Ouais, je pense que là, ça reste encore une idée qui est mal connue. Ouais. Mais je pense que de plus en plus qu'on va en parler, les gens, ils vont être vraiment excités par ça, puis ils vont vouloir juste acheter des légumes du Québec, mais pas n'importe quel légume, ils vont vouloir des légumes du maraîchage nordique, que c'est des légumes vraiment qui aiment le froid, puis les gens vont être plus sensibilisé à ça, mais il y a encore beaucoup, tu sais, il faut en parler encore beaucoup.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
C'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui.
Ben, oui, effectivement.
Mais question, justement, pour du monde là, qui nous écouterait, puis que là, ils seraient intéressés, là, ils veulent goûter à ça, genre des épinards d'hiver, on n'a jamais goûté à ça. C'est quoi vos... où c'est qu'on peut trouver vos produits?
Ben, nos produits, nous, à la ferme, sont disponibles dans la région de Montréal via les biolocaux d'hiver de la CAP. Donc, nous, on est des fournisseurs pour certaines lignes de produits, dont les crucifères, la mâche, la chicorée, les épinards, etc. Et puis, essentiellement, c'est ça. Puis, avec les nouvelles infrastructures qu'on a, ben, on risque, ben, c'est ça, on devrait être disponible dans les épiceries santé là, via les distributeurs biologiques là, au Québec. Donc, à voir.
C'est qui les distributeurs biologiques au Québec?
Bercy, Bonneau, La Verdure.
Ouais. Cool.
C'est ça.
Nice. Très nice.
Yeah.
Nous, pour la ferme, ça va être beaucoup dans des restaurants à Montréal.
Ouais.
Puis après ça, on a aussi une boutique en ligne qu'on livre des légumes deux fois par semaine à Montréal. Les gens, ils peuvent comme magasiner, puis ils peuvent aussi avoir nos légumes, mais aussi les produits transformés, la ferme, les charcuteries, les saucissons, tout ça. Fait que c'est le fun.
Très cool. Puis justement, moi, j'aimerais ça. En plus, on va avoir un épisode, dans le fond, qui va vraiment traiter aussi uniquement d'agriculture puis de restauration. Puis dans cette ordre d'idée-là, ça serait qui les restaurants qui vous faites affaire à Montréal? Est-ce qu'on peut le savoir? C'est-tu correct?
Oui, je vais essayer de m'en rappeler. Il y en a vraiment beaucoup.
Ouais, OK.
Ben, il y a le Lawrence. Il y a le Tuck Shop.
Ouais.
Il y a, tu sais, toute la famille Joby, fait que le vin Papillon.
Ah oui, ben oui.
Le vin Mon Lapin. Ouais, tous ces restaurants-là.
Oh.
Mais c'est ça, si vous allez sur notre site web, vous allez tous les voir. Il y en a comme au moins entre 15 et 20 auxquels on livre à chaque semaine.
Ah oui, ça donne faim. Bon. Moi, je me demandais justement, tu sais, là, on parlait, il y a encore un peu la mentalité qui est à changer au niveau de réapprivoiser l'hiver. Est-ce que vous sentez en ce moment une ouverture au niveau de la population? Je ne sais pas si vous êtes dans une bonne position pour le sentir, mais juste selon vous, selon votre opinion, est-ce que vous sentez une ouverture de la population en ce moment vers les produits d'hiver du Québec?
Je pense qu'il y a un gros travail de marketing à faire, là, énorme. Là. C'est de la méconnaissance. Je pense qu'il y a une ouverture de base, là, mais sauf que je pense que l'idée est pas encore ancrée dans la tête des gens. Puis il y a aussi une éducation là, quand même. Là. Bon, les épinards, les gens connaissent ça. Ouais. La roquette, OK, on tombe dans le funky un petit peu. La mâche, si t'es pas loin des Européens, peut-être que tu connais ça.
C'est tellement bon.
Oui, c'est quelque chose d'intéressant. La chicorée, le mélange de moutarde, etc., ça, c'est quelque chose qui pousse extrêmement bien l'hiver. Pourtant, c'est très, très méconnu.
Ouais.
Donc nous, tu sais, nous, on fait notre bout, là, mais je pense qu'il y a un autre bout aussi là, au niveau des communications là, chez le consommateur. Donc, il faut qu'il, lui, il redécouvre un petit peu. Il découvre carrément à partir de zéro là, ces produits-là. Oui,
oui, oui.
Oui, je pense qu'il faut repenser notre alimentation en termes de que ça soit tout le temps local, mais ça veut dire qu'en hiver, il va falloir apprendre des nouvelles recettes qu'on n'est pas habitué de faire. Puis d'accepter qu'on peut pas toujours faire n'importe quelle recette. Il faut choisir qu'est-ce qui va avec qu'est-ce qui pousse au Québec.
Ben oui.
Ça, c'est clair qu'il y a encore un travail à faire là-dessus. Puis justement, comme François dit, en hiver, il y a beaucoup de légumes qui poussent bien, que c'est des légumes qu'on connaît pas au Québec. Fait que là, il faut apprendre à comme les pousser, puis une fois que je trouve qu'une fois que les gens y goûtent, par exemple, là, c'est bon, puis ils vont vouloir les racheter, mais il faut les amener à faire la première fois.
Passer cette barrière-là un peu craintive là, de l'alimentation.
C'est qui pourrait nous aider dans cette mission-là de sensibilisation, d'éducation, de faire découvrir ça?
Chantal Fontaine.
Chantal Fontaine.
Ricardo,
clairement.
Ben là, il est venu à la ferme, Ricardo. Puis il a pris des photos, puis là, ce qui est vraiment excitant, il a pris nos légumes, puis il a fait des recettes avec les légumes d'hiver.
C'est ça que ça prend.
C'est le début d'une belle collaboration en vue, ça.
Ça va être dans son magazine, je pense, le mois prochain.
Très cool, bravo, Ricardo. Merci.
Faut vraiment faire attention, parce que c'est Ricardo, c'est quand même vraiment populaire, puis là, si le monde, si ça pogne, puis il n'y en a pas dans les épiceries.
Là,
on manque notre coup. Fait qu'il y a comme un...
C'est
gros, Ricardo.
Faut que l'élan coexiste avec la production de la capacité.
Tout à fait. Bon.
Tous les maraîchers qui nous écoutent, commencez maintenant.
Parce que Ricardo s'en vient.
Vos épinards, préparez-vous. Winter is coming. Bon, mais oui, puis je pense que... tu sais, avec Ricardo puis Chantal Fontaine, est-ce que vous avez même d'autres idées de personnes qui pourraient aider, sans que ce soit, mettons, des promoteurs en tant que tels de niveau de la cuisine, mais même, je sais pas, des agences marketing qui pourraient, genre, des institutions qui pourraient s'associer, vouloir promouvoir ça, tu sais?
Bonne question, mais je trouve que les biolocaux, comme François mentionnait, qui leur vendait ses légumes, je trouve qu'ils font vraiment un bon travail de diffusion de l'information, puis leurs paniers d'hiver sont vraiment populaires. Moi, j'en ai acheté pendant un bout avant qu'on ait assez de légumes à la ferme, puis c'est vraiment des beaux paniers. Tu les achètes, puis là, tu te dis, OK, wow, c'est ça que je vais manger maintenant en hiver, puis il n'y a pas de retour en arrière. Puis ils en vendent combien des paniers, François?
On est autour de... on n'a pas comblé tous nos paniers qu'on voulait vendre, mais je pense qu'on est autour de 1300, mais là, il faudrait pas que...
Wow, quand même, hein? Tu regardes
regarde dans l'aquarium.
Il y a quelqu'un qui me dit à l'oreille qu'on n'est pas sûr.
Je suis pas sûr, je suis désolé. On a notre réunion bientôt, d'ailleurs. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, puis... La formule curieuse, ce qu'on a découvert avec les biolocaux, c'est que les consommateurs des paniers d'été, c'est pas du tout les mêmes consommateurs des paniers d'hiver.
Ah non, curieusement.
Curieusement. Puis on a aucune idée. Puis on a beaucoup de roulements. Okay. Très peu de gens qui reviennent année après année. Quand même, ça, c'est intéressant, c'est étonnant. Puis, comment dire, c'est un panier aux deux semaines. Puis, tu sais, l'idée, c'est pas de fournir tous tes légumes là, pour les deux semaines. Dans le fond, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de donner une base avec laquelle fonctionner. Mm-hmm. Puis oui, tu iras t'en acheter des tomates puis à l'épicerie puis tout le kit. Mais c'est un petit peu ça comme je pense qu'on essaierait de mettre de l'avant plutôt que, contrairement au panier d'été où ben, voici ta portion de légumes pour la semaine puis voilà, c'est fait. Fait qu'il y a comme un... c'est pas la même chose.
Ouais, c'est ça. Non, je peux facilement imaginer, tu reçois tes produits en ce moment, je me dis que ça doit être des produits tu sais, de conservation, donc des légumes d'automne qui sont arrivés, qui sont conservés tout l'hiver. Mais là, il y a des produits frais, justement, grâce à vous, qui s'en viennent. Là, je pense tu sais, à la personne qui a fait un peu de conserve, tu sais, des trucs marinés, des trucs fermentés. Puis là, ben, tout d'un coup, tu commences à avoir...
Des produits frais qui arrivent, on parle d'épinards.
Ah oui, t'as un panier qui est vraiment intéressant en hiver, là, tu sais, puis ça devient cool à cuisiner. Là.
Ben oui, totalement, puis... pour faire du pouce aussi, même sur cette idée-là, tu sais. Je pense que ça peut être quand même plaisant, même si c'est pas la totalité de ton épicerie ou de ton alimentation, mais quand même de savoir que, comme tu as dit, François, la base est là, puis vient de fermes ici au Québec, même en hiver, puis qui sait, peut-être qu'avec le temps, il va avoir assez d'offres pour pouvoir donner quelque chose d'intéressant, même parce que là, on n'a même plus besoin d'aller complémenter avec des trucs à l'épicerie, sauf pour des produits vraiment spécifiques, admettons. Puis justement, en fait, je voudrais revenir aussi un peu en arrière avant d'embarquer dans le futur du maraîchage nordique. Revenir un peu à la genèse du maraîchage nordique. Je sais que Catherine, je pense que tu l'abordes aussi dans le livre de où c'est parti, cette idée-là, ça vient d'où, tu sais.
Oui, mais en faisant la recherche pour le livre, on a réalisé que le maraîchage nordique, c'est vraiment pas nouveau au Québec. Puis en fait, on l'a oublié avec la mondialisation, tu sais, les quelques décennies de la mondialisation, mais avant... Ouais. Ça, il n'y avait pas la possibilité d'importer, ou c'était très rare, là, d'importer des légumes au Québec, des légumes qui proviennent du Sud. Fait que nos ancêtres, ils n'avaient pas le choix d'avoir des stratégies, soit de conservation de légumes, comme avec les caveaux qu'il y avait dans le temps. Fait qu'ils récoltaient tous leurs légumes à l'automne, ils mettaient dans leurs caveaux, puis là, ils pigeaient là-dedans pendant l'hiver. Ça, c'est un aspect, mais il y avait aussi des aspects d'avoir de la primeur, d'avoir des légumes plus rapidement au printemps. Puis là, dans le livre, on donne l'exemple des couches chaudes que... ils mettaient du fumier, puis ça créait de la chaleur, puis ils plantaient là-dedans avec une fenêtre par-dessus, puis ils pouvaient avoir des légumes vraiment plus tôt au printemps. Fait que mettons qu'il n'y avait plus beaucoup de légumes de conservation, là, il y avait des légumes plus rapidement. Fait que c'est comme toutes des choses, des stratégies qu'on a un peu oubliées, ben, en fait qu'on a oubliées complètement. Puis là, on revient vers ça, puis on réalise qu'il y a plein de possibilités. Puis eux, ils le faisaient pour la sécurité alimentaire, mais là, je pense qu'on est comme... un autre niveau, c'est plus pour la sécurité alimentaire qu'on voudrait le faire, c'est plus comme la souveraineté alimentaire. Fait que les objectifs ont changé, mais les méthodes, je dirais qu'ils restent quand même les mêmes, mais c'est adapté avec des nouvelles technologies qu'on a.
C'est ça. T'en as glissé un mot tantôt, François, mais tu sais, on parle On parle de serre. Je sais pas si ça date de quand, là, les serres qu'on connaît aujourd'hui.
Ben déjà juste les polyéthylènes. Là.
C'est ça, polyéthylènes, ben c'est oui, ça. C'est ça. Ce sont les plastiques là, ouais. Qui
par-dessus les serres, ouais. les toiles flottantes non tissées. Ouais. Ça, ouais. C'est vraiment une révolution. Là,
ça, on parle de quoi, donc, toiles flottantes non tissées?
Ben, on parle des Novagril, je pense que c'est le nom commercial. Agril, Novagril, ouais, les acryles, ouais. Exactement. Ouais. Tu l'achètes en fonction du poids au mètre carré. Donc, puis en fonction du poids, ben, tu peux... Ça réduit la perte de chaleur durant la nuit, mais le côté négatif, c'est que ça laisse moins passer de lumière. Donc, bon, il y a comme un équilibre à y avoir là-dedans.
Ouais, c'est une petite couverture qu'on met sur la nuit, qu'on place la nuit. Puis...
Je sais que j'ai même déjà entendu parler de gens, même pour peut-être les jardiniers amateurs qui nous écoutent à la maison, des gens qui faisaient ça avec des draps qui sont pas trop opaques là, pour essayer de faire un peu. C'est sûr que, écoute, moi, je pense que si jamais il y a des gens qui veulent tester, faire des tests chez eux, la Novagril, je pense que elle existe même dans des dimensions qui ne sont pas trop énormes, là, qui ne sont pas juste pour des maraîchers professionnels. C'est sûr qu'il va y avoir une différence entre le petit drap à la maison et la couverture Novagril.
Ouais. Tu as parlé aussi de soufflerie tantôt?
Mm-hmm. Oui, donc c'est un mécanisme qui permet de souffler de l'air entre les deux plastiques de la serre, donc les deux films de polyéthylène. Donc ça permet de... Bon, parce que l'air est un isolant, donc ça permet d'isoler quand même là, une partie de la serre. Ben, en tout cas, disons que ça permet de ralentir la perte de chaleur par les côtés. Puis, il y a quelque chose qui se passe aussi d'intéressant là, quand il y a un givre là, qui se forme sur le polyéthylène puis sur les toiles flottantes aussi. Donc, on a beaucoup de réflexions des infrarouges, donc la chaleur vers l'intérieur. Mm-hmm. Donc, ça... Mais on tourne toujours dans l'effet de serre, dans le fond. C'est ça.
Puis avant même de, je pense qu'on pourrait continuer aussi dans les technologies qui novatrices qui nous ont aidés à pouvoir approfondir le maraîchage nordique. Mais j'aimerais ça revenir tantôt parce que tu parlais des connaissances qu'on a perdues un peu au fil du temps que les Québécois ont pratiqué avant. Comment vous avez réussi peut-être à aller retrouver ces techniques-là? Y a-tu des, genre, vous avez-tu été fouillé comme dans des archives, admettons, pour voir le père un tel quand tu faisais de l'agriculture à côté de l'église ou tu sais, je sais pas. Comment ça a été quoi le travail de recherche un peu à ce niveau-là?
Ouais, c'est quand même accessible, mais tu sais, on donne l'exemple de l'abbé Proux qui était un agronome, puis lui, il faisait des films sur ses techniques, fait que tu sais, tu peux aller voir ça quand même facilement.
Ah ouais,
ouais. Puis lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a voyagé en Europe, puis là, il a été témoin qu'en Europe, il y avait aussi, on les appelle les maraîchers et maraîchères de Paris, là. C'est des gens qui faisaient des légumes autour de la ville de Paris au 19e puis au 20e siècle. Puis lui, il est allé, puis là, il les a vus, puis il a vu leurs techniques, puis là, après ça... Il a filmé, puis là, il a pu ramener ça au Québec, puis a travaillé avec ça. Ouais. Bon, on dirait que là, lui, il a fait plein de choses, mais là, dès qu'on a importé des tomates puis des concombres, puis on a comme arrêté.
Oui, parce qu'on était à la même latitude que Bordeaux, finalement.
Ouais,
fait qu'au niveau de la luminosité, ça devrait être similaire. C'est juste à cause du courant jet. Là. Courant jet, il y avait de la chaleur en Europe.
Ah ouais, ça
change un petit quelque chose.
Mais les techniques sont un peu transmissibles.
Absolument, tout à fait.
C'est quand même fou de voir que cet abbé-là était vraiment un avant-gardiste aussi, dans un sens. Là,
vraiment, puis il y avait déjà cette intuition-là. Je ne sais pas s'il savait, mais il y a l'intuition que ça se transmettait de l'Europe vers nous. C'est quand même intéressant.
Ouais. On dirait bien, qu'est-ce qu'on voudra sur les prêtres? Et tout, mais pour vrai, souvent dans l'histoire, ça a été des gens qui étaient premièrement éduqués, mais qui étaient souvent à l'avant-garde des fois de nouvelles notions ou de champs d'études qui étaient comme pas encore accessibles ou pas tant encore explorés. C'est quand même un truc intéressant. Petite aparté, c'est tout. On va pas en dire plus sur eux, Dalcite. On peut passer à d'autres choses, c'est bon. Mais je pense qu'on pourrait revenir justement sur les techniques aussi innovantes justement aujourd'hui. T'sais, on a parlé de la serre, des couvertures flottantes. Vous, ça a été quoi aussi les techniques utilisées ou les innovations technologiques que vous avez utilisées pour le maraîchage?
Ben nous, il y a celle que François a nommée, là, on teste les plans, le sol chauffé aussi au radiant. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus sur l'avantage de chauffer le sol en hiver, pour des cultures en hiver. Puis je dirais de façon générale, tu sais, j'ai essayé de faire quand même pas mal de recherches dans la littérature scientifique puis chercher des données de recherche sur la culture en hiver. Puis il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites. c'est vraiment un domaine dans lequel je pense que là, il commence à avoir un intérêt. Là. La recherche, ça commence à suivre aussi la pratique, là, mais il n'y a pas beaucoup de données ce terrain aussi, là, parce qu'il y a beaucoup de données, mettons, dans des laboratoires, mais des données qui ont été prises dans le sol, il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est ça. Fait que le chauffage du sol, ça serait un domaine que nous, on teste, mais qu'on n'a pas, tu sais, on n'est pas un laboratoire non plus, là. On ne fait pas des tests scientifiques, là. On fait juste l'essayer, voir si ça marche.
Les observations.
Exactement. Tu sais, pour nous, ça fonctionne bien, mais après ça, voir, tu sais, comparer aussi avec le prix que ça coûte, est-ce que c'est vraiment rentable de faire ça? Je pense que ça serait quelque chose à tester, là.
Moi, je me demande, est-ce que comment mettons, expliquer ce manque d'intérêt-là, mettons, du champ scientifique en maraîchage, pour le maraîchage nordique? Est-ce que vous...
Ben, il y a pas d'industrie en arrière de ça pour backer les recherches. C'est sûr que si tu as 2000 hectares de serre de tomates, ben, c'est plus facile d'aller chercher du financement pour faire la recherche, pour répondre aux questions de ces gens-là.
Faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de recherches universitaires, comme François le touchait à cette idée-là, sont financées là, directement par l'industrie. Tu sais, l'université ne fait pas toujours des recherches indépendantes. Il y a quelqu'un qui met de l'argent en arrière. Fait qu'il faut avoir quelqu'un qui a un intérêt à mettre de l'argent. Puis en ce moment, tu sais, les fermes qui font ça, c'est pas des grosses fermes qui ont des gros sous pour mettre là-dessus. Là.
Puis ça m'en vient à réfléchir à, y a-tu de la place dans ce contexte-là pour de la science citoyenne, pour aller récolter justement des données sur tout ça? T'sais, je sais que c'est quelque chose qui demande des fois, je sais pas, quelqu'un qui va venir récolter tout ça, ou je sais pas trop comment ça marche, mais...
Ben, tout aide est bienvenue, là, j'imagine. Là. Nous, notre problème à la ferme, c'est souvent on établit des protocoles puis des essais comme sur la ferme, puis on en vient toujours bien, bien excité par rapport à nos projets. Puis là, dans le tumulte, la saison, finalement, t'as-tu récolté telle planche individuellement pour aller chercher les données parce qu'on a fait telle planche? Fait que, tu sais, d'avoir quelqu'un dédié à ça, je pense, c'est sur la ferme aussi, ou qui est responsable, peut-être pas uniquement, là, mais moi, je serais prêt à payer un chercheur, tu sais, avec d'autres fermes, tu sais, pour qu'ils puissent, comme, justement... gérer tout cet aspect-là, là, mais bon, c'est ça.
C'est intéressant.
Je pense que ça pourrait être cool. Puis, tu sais, notamment, je sais que, mettons, le CETA Plus aussi, même Agriculture Régénération Canada, eux font des visites à même les fermes. Je pense qu'avec l'intérêt, comme tu le disais tantôt, eux, je pense que c'est des gens qui pourraient quand même avoir les moyens d'envoyer des chercheurs sur des fermes faire ces expériences-là.
T'en parles-tu, Catherine? non, mais tu sais, parce que, bon, on parle des recherches, etc., mais il ne faut pas oublier qu'on a le CETA Plus, qui est une vitrine technologique. Je ne suis pas sûr du vrai vocabulaire, là, mais une vitrine technologique sur les cultures en hiver, puis il y a une chercheuse, Charlotte, qui fait ça pratiquement à temps plein.
Je l'ai écouté d'ailleurs dans une conférence de pas si longtemps avec Pam Darling, puis excellent.
Voilà. Fait que tu sais, on n'est pas tout nu non plus. Il y a des gens qui s'intéressent à ça, puis c'est comme, bon. Voilà, faut reconnaître
quand même l'expertise, les efforts qui sont faits aussi quand
même. Tout à fait. Puis on fait partie d'un réseau de fermes qui font des cultures d'hiver. Donc, on prend des données sur notre ferme en lien avec les projets du CETAB.
Cool.
Il y a le CRAM aussi, qui est un centre de recherche à Mirabel qui fait des suivis dans les cultures froides. Tu sais, je dirais que les centres de recherche, ils vont suivre ce qu'on fait. Puis ils s'intéressent de plus en plus à l'agriculture biologique et au maraîchage sur petite surface. Fait que si on fait des légumes en hiver, ils vont venir puis ils vont faire des projets de recherche. Fait que, tu sais, je dirais que ça va s'en venir, tu sais, les résultats, mais la recherche, ça prend du temps. Eux autres, ils veulent les tester sur 3, 4, 5 ans. Fait qu'il faut attendre. Tu sais, là, je dirais qu'on est encore au début. Tu sais, dans 5-10 ans, là, on devrait avoir, tu sais, des articles qui sortent puis plus de données. Puis...
C'est ça.
Quelque chose de plus éprouvé aussi, là, en termes de...
Faut être patient, patiente. Tu sais, nous, on le fait parce qu'on sait que ça fonctionne, parce qu'on est des, tu sais, des pratiquants. Mais eux et elles, ils veulent vraiment avoir les données puis que ce soit exact. C'est deux façons de travailler, mais les deux s'alimentent ensemble.
Puis moi, je me demandais, parce que là, on a parlé beaucoup du maraîchage nordique puis de tout aussi les bons côtés dans le sens que, tu sais, comment c'est le fun, mais est-ce qu'il peut y avoir des pièges à ça? Puis pour, mettons, expliquer un peu ma pensée, est-ce que ça serait l'intérêt de faire pousser des ananas au Québec dans une serre à -20 en plein hiver, tu sais?
Ben c'est ça, c'est ça. Je pense que le principal piège, c'est d'y aller avec des gros investissements parce que c'est ça, l'argent au mètre carré. C'est, puis le rythme de croissance aussi est différent en hiver, beaucoup plus lent en hiver. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Donc, mais il se fait du citron là, au Québec.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Donc, oui, il y a des intérêts, mais... Moi, mon approche par rapport à ça, c'est que, tu sais, mettons, je prends un arbre, mettons, comme le citronnier, là, puis j'ai tendance à me dire, OK, bon, c'est quoi son facteur limitant à lui? Tu sais, parce que, tu sais, on est toujours en train de repousser les facteurs limitants. Donc, c'est-tu la température? C'est-tu la saison de croissance? C'est-tu la luminosité? C'est bon. Ouais. Fait qu'une fois qu'on a localisé les facteurs limitants, ben là, après ça, on est capable de voir si on est capable de les corriger avec des infrastructures, etc. Donc, c'est plus notre approche à nous. Donc, tu sais, mais je pense qu'il y a, il y a de l'intérêt quand même, là, parce que, tu sais, on n'est pas loin d'être capable de faire des figues, on n'est pas loin d'être capable de faire de plein d'affaires, tu sais. Il faut juste trouver la bonne méthode environnementale puis financière qui nous permet de le faire.
C'est là. Ça. Mm. Puis est-ce que, selon toi, il peut quand même, malgré tout, y avoir comme une espèce de... un danger un peu là-dedans, dans le sens où, justement, là, on va peut-être délaisser un côté un peu plus aventureux, tester des variétés rustiques ou quelque chose dans le genre pour aller vers, mettons, justement, faire pousser des plantes tropicales, subtropicales, tu sais.
Oui, ça peut arriver, tu sais, c'est comme le balancier, comme il va atteindre un extrême puis il va revenir, tu sais. Mais là, à ce moment-là...
C'est difficile à dire, ça. Je comprends.
Ça va arriver. Moi, je pense que ça va arriver. Ouais. Si on est capable de faire pousser des légumes dans les entrepôts, moi, je considère que c'est quand même un extrême. Non.
Oui, effectivement.
Ouais.
Ben, je pense qu'il y a un côté idéologique à ta question. Là.
Ouais.
C'est vrai qu'on s'en
va.
Oui, parce que c'est sûr que pour moi, j'encouragerais pas de faire des ananas au Québec en hiver. Ce serait pas ma recommandation, mais c'est sûr que je sais qu'il y a des gens qui veulent faire ça. Mais ça reste que c'est pas, premièrement, c'est pas une méthode qui est accessible. Ça veut dire que des jeunes comme vous qui voudraient partir votre ferme pourriez jamais faire ça parce que ça va prendre des investissements énormes. Ça veut dire que ça prend la lumière artificielle. Ça prend des installations complexes. Ça prend du chauffage. Fait que tu prends une méthode qu'on voulait accessible, qu'on voulait, tu sais, horizontale, que tout le monde pouvait un peu démarrer avec un minimum de connaissances, puis tu rends ça complètement inaccessible. Moi, je pense pas que ça devrait être le modèle pour notre agriculture, surtout pas l'agriculture en entrepôt, là. Je pense que, tu sais, on veut demeurer dans l'agriculture biologique qui est le plus proche possible de la nature, puis qui respecte, tu sais, qu'on fait pousser les choses dans le sol avec la lumière naturelle. C'est sûr qu'il y a pas tout le monde qui suit avec ça. Il y a des gens qui aiment beaucoup la technologie, puis qui ils voient pas l'avantage là-dedans. Fait que, là, ça débat d'idées rendu là.
Puis, tu sais, peut-être que dans un sens, il pourrait avoir de la place pour les deux, mettons, dans le sens que s'il y a des gens qui ont l'argent, mais peut-être pas nécessairement à des fins commerciales, je sais pas, mais qui ont envie de, t'sais, de geeker en bon français, de faire des tests, d'essayer, puis t'sais, ça peut être une possibilité, mais que malgré tout, on garde quand même, c'est ça, nos balises au niveau des valeurs, puis pour pas nécessairement s'égarer dans des avenues, mais encore une fois, comme tu dis, ça dépend, je pense, encore une fois, du point de vue, puis de l'angle avec lequel on regarde. Moi, je me demandais, avant, on arrive bientôt à la fin du podcast, c'est quoi un peu vos espoirs à tous les niveaux, surtout pour le maraîchage nordique, mais tu sais, ou sinon, si vous avez des projets spécifiques face à votre ferme, qu'est-ce qui s'en vient, en fait?
On se réfléchit, c'est quoi tes projets? Ben là, tu as développé tes serres, tu veux faire plus de surface de culture?
Oui, ben c'est ça. J'essaie de. Comment je pourrais dire ça de manière simple? Si tu mettais tous les consommateurs là, sur un axe, là, si tu aurais une courbe de distribution normale. Bon, fait que là, avec les fermes, petites fermes maraîchères, on vise beaucoup le bout de la courbe, là, ceux qui sont très, très, très conscientisés du Québec. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment, beaucoup, beaucoup de consommateurs là, un petit peu plus vers le centre de la courbe qui sont peut-être un petit peu moins ouverts, mais qui auraient intérêt, je pense, à aller à bénéficier des cultures d'hiver, dans le fond. Fait que nous, c'est un petit peu vers là qu'on s'en va. Fait que, tu sais, dans le futur, j'ai de la misère à... à sortir l'agriculture du verre de mon entreprise. T'sais, c'est sûr que mon entreprise, moi, il faut qu'elle soit transférable, faut qu'elle soit résiliente, faut qu'elle puisse se passer de moi comme gestionnaire si je veux que mon entreprise ait une valeur sur le marché. Ouais. Fait que, présentement, je te dirais que c'est plus ce genre de questionnement-là que moi j'ai par rapport au futur. Puis c'est là-dessus que je travaille beaucoup. Là. Mais bon, c'est sûr, on reste toujours à l'affût des nouveaux développements pour les cultures en hiver. Mais le futur, moi, j'ai l'impression que je m'intéresserais beaucoup à thermodynamique, donc au mouvement de chaleur dans les serres durant l'hiver. Puis essayer de mieux comprendre un petit peu comment on pourrait mieux faire pour conserver la chaleur, ce qui nous permettrait d'avoir de mieux déshumidifier donc de mieux cultiver aussi. Ouais. Fait que moi, je pense que à ce niveau-là, c'est ça. Les flux de chaleur. Hein. Ouais, où la chaleur? Es-tu dans le sol? Es-tu dans la structure? Ouais. Es-tu comment qu'elle se transmet? Puis, y a-tu moyen de stocker la chaleur pour pouvoir l'utiliser plus tard?
C'est intéressant, ça. Ouais. T'as-tu regardé de côté les gens qui font comme des gros
d'eau,
qui
maintient
la chaleur.
Ben oui, c'est ça. Les Chinois avec le serre au nord, avec la masse thermique. Ouais, chez nous, nous autres, on a une maison solaire passive. Marche au bout, mais sauf qu'elle est isolée, notre maison.
Ouais, c'est ça.
Fait que jusqu'où on est capable d'aller là-dedans? Ouais. Ça nous prend des données intéressantes. Mais là, c'est ça. Là, je parle un peu à travers mon chapeau, mais je pense qu'il y a quoi?
Quand même.
Il y a que tu sais, les thermopompes, puis la géothermie, puis tout ça. C'est comment on est capable d'utiliser ça?
Intéressant.
Parce que c'est bien beau brûler du propane, mais...
Ouais, c'est ça.
L'électrification, ça peut être la prochaine
fois. Ouais, c'est comme tu dis, thermopompe, ça peut être le fun, ça aussi. Ouais.
Mais voilà.
Cool. On va rester à l'affût, on va regarder qu'est-ce qui s'en vient.
Yes!
Ouais,
yes,
ben, toi, justement, nous, c'est quelque chose qu'on va tester, les thermopompes. Là.
Okay, cool.
On a un projet avec Hydro-Québec, ils vont installer les thermopompes moins dans nos serres.
Wow.
Ça, puis l'aérogéothermie.
Oh, ça, j'ai jamais entendu.
Ben non, aussi, c'est la première fois
que... Je suis pas encore super connaissante, mais on va avoir différents systèmes, puis là, ils vont comparer l'efficacité énergétique, les coûts, puis tout ça. Puis ça va être le fun parce qu'on va pouvoir l'utiliser en hiver aussi, pas juste en été.
Wow.
Et puis ça s'en vient. Fait que c'est quand même un gros morceau de penser justement à l'énergie, puis à notre consommation d'énergie pour les cultures dans les serres. Ça, je pense que c'est un des aspects qui reste à développer, puis aussi, tu sais, le côté financier, ça reste des systèmes qui sont vraiment coûteux. Là. Fait que ça va être une des choses. Après ça, pour moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est plein de choses, mais j'aimerais ça essayer des nouveaux légumes.
En même temps,
essayer de diversifier le modèle. T'sais, cette année, on a fait pour la première fois une couple de nouveaux légumes, le céleri, le persil, chou chinois. Puis ça a tout vraiment bien fonctionné. Fait que c'est excitant. Puis après ça aussi, former les employés à la culture en hiver, ceux qui viennent à la ferme, les former là-dessus. Puis aussi qui trouvent ça excitant, parce que des fois, il fait froid l'hiver, puis t'as envie d'aller faire du ski. Fait que j'ai de leur montrer que c'est le fun aussi de travailler en hiver, puis de faire des légumes en hiver. Puis après ça, eux et elles partent avec ce bagage-là, puis sur leur ferme, puissent continuer le modèle, puis l'améliorer. Fait que ça, c'est dans mes objectifs, moyen terme, je dirais que c'est ça.
Moi, perso, je regarde ça juste en finissant parce que je vais parler un peu de mes aspirations, mais je vois ça aller, puis comme nous qui se prépare tranquillement à partir notre projet aussi, de voir ça, je trouve ça intéressant. On a l'habitude d'avoir des étés vraiment, vraiment très intenses en se disant qu'il faut absolument faire tous nos revenus sur une courte période de temps pour l'année au complet. Puis là, de sentir qu'on va être capable de peut-être ralentir un petit peu. Là. Je pense pas qu'on va arrêter de faire du maraîchage l'été pour autant, mais de sentir qu'on va peut-être être capable d'étaler la charge de travail sur une année complète. En tout cas, moi, ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite. Merci énormément pour votre travail. Merci d'être venu jaser avec nous autres.
De votre expérience, votre générosité aussi. Vous êtes venu quand même de loin là, pour venir avec nous. Fait que c'est super apprécié aussi. Yes.
Merci de nous avoir accueillis.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Merci
aussi à vous de nous avoir écoutés. Puis on se revoit. Puis on se revoit pour le prochain épisode. Bye bye.
All right, ciao.
Merci d'avoir été des nôtres, guys. Grande nouveauté cette année, nous sommes aussi maintenant présents sur Patreon. Donc, tous les épisodes seront disponibles 2 semaines à l'avance en primeur. Puis, quelque chose me dit que tous les abonnés pourront également avoir accès à des contenus exclusifs. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, allez vous abonner à notre compte Patreon, Les Idées Radicules. Sinon, comme d'habitude, tous les épisodes seront disponibles 2 semaines plus tard sur nos plateformes.
Et donc, si c'est pas déjà fait, allez nous suivre sur notre page Facebook et la chaîne YouTube d'élevage et culture pour regarder tous les épisodes vidéo des Idées Radicules. Et puis, pour les amateurs de contenu audio uniquement, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Music et Google Podcast.
À la prochaine, guys!
Salut, merci!